Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Histoire de la Finlande, Bernard Le Calloc propose une synthèse accessible de la trajectoire d'un pays longtemps placé à la périphérie des récits européens. L'ouvrage, de nature historique, suit la Finlande depuis les premières populations finno-ougriennes jusqu'à son intégration à l'Union européenne en 1995. Son objectif n'est pas de détailler exhaustivement chaque période, mais d'éclairer une question directrice: par quel processus une population soumise successivement à l'influence suédoise, puis russe, a-t-elle constitué une nation politiquement indépendante et culturellement identifiable? Spécialiste français des mondes finno-ougriens, l'auteur accorde une attention particulière aux langues, aux origines et aux conditions de formation du sentiment national. Il montre que la géographie nordique ne suffit pas à faire de la Finlande un pays scandinave au sens culturel ou linguistique. Le livre relie ainsi les dominations étrangères, l'affirmation du finnois, l'indépendance de 1917, les conflits du XXe siècle et l'ancrage européen contemporain. Il fournit surtout des repères pour comprendre la position singulière de la Finlande entre Europe du Nord et voisinage russe. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, des origines finno-ougriennes qui distinguent la Finlande de ses voisins nordiques. Le point de départ de l'ouvrage est la singularité des populations finlandaises dans l'espace européen. Bernard Le Calloc rappelle que l'histoire nationale ne peut se réduire à l'image contemporaine d'un pays nordique moderne, elle repose aussi sur une origine linguistique et culturelle distincte de celle des peuples germaniques qui dominent une grande partie de la Scandinavie. Le finnois appartient à la famille finno-ougrienne, comme l'estonien et le hongrois, et non aux langues germaniques. Cette différence éclaire une tension durable: la Finlande partage avec la Suède et la Norvège un environnement géographique septentrional, mais son héritage linguistique la rattache à un autre ensemble historique. L'auteur ne présente pas les origines des premiers peuplements comme une certitude simple. Les déplacements anciens et les contacts entre groupes rendent les reconstitutions délicates. Cette prudence est importante car elle évite de transformer une identité nationale en donnée immuable. L'enjeu est plutôt de comprendre comment une population dispersée, longtemps dépourvue d'état propre, a progressivement interprété sa langue, ses traditions et son territoire comme les éléments d'une communauté spécifique. Ce cadrage initial donne du sens au chapitre ultérieur: les luttes autour de la langue et de la culture ne sont pas des questions secondaires, mais les instruments mêmes par lesquels la différence finlandaise devient une conscience nationale et finalement une revendication politique. Deuxièmement, la longue période suédoise et la dissociation entre administration, élite et langue populaire, la Finlande a été rattachée pendant plusieurs siècles au royaume de Suède. Une situation qui a profondément structuré ses institutions, son droit et ses rapports sociaux. Le Calloc met en évidence le caractère ambivalent de cet héritage. D'un côté, l'intégration au cadre suédois inscrit le territoire dans des formes administratives et religieuses occidentales. De l'autre, elle place durablement le suédois au sommet de la vie publique et culturelle. Les élites, l'administration et les milieux instruits emploient cette langue, tandis que le finnois demeure principalement la langue de large couche de la population. Cette asymétrie explique pourquoi l'existence d'une langue distincte n'entraîne pas immédiatement l'existence d'une nation politique distincte. Elle montre aussi que l'identité finlandaise ne s'est pas formée en dehors des influences étrangères, mais en réaction et en dialogue avec elles. L'ouvrage aide ainsi à éviter une lecture rétrospective selon laquelle l'indépendance aurait été inévitable. Pendant longtemps, le territoire finlandais est administré comme partie d'un royaume plus vaste, et la distinction culturelle ne possède pas encore toute sa traduction institutionnelle. La domination suédoise fournit donc à la fois un cadre occidental durable et le contraste linguistique qui alimentera plus tard la mobilisation en faveur du finnois. Comprendre cette dissociation est essentiel pour saisir les transformations du XIXe siècle. Troisièmement, le grand-duché russe, une tutelle qui favorise paradoxalement l'éveil national, l'un des axes les plus éclairants de cette synthèse est le paradoxe de la période russe, ouverte en 1809 lorsque la Finlande devient un grand-duché de l'Empire russe. À première vue, un changement de puissance dominante devrait accentuer la dépendance du pays. Or, le Calloc souligne que l'autonomie relative du grand-duché crée des marges institutionnelles et culturelles propices à l'affirmation finlandaise. La séparation d'avec la Suède rend plus visible la spécificité du territoire. Elle favorise aussi le développement d'institutions propres et d'une réflexion sur la langue nationale. Dans ce contexte, le finnois peut gagner une reconnaissance progressive dans la sphère publique, au lieu de rester exclusivement associé à l'usage populaire. L'essor culturel du XIXe siècle, auquel est liée la mise en valeur des traditions orales et du Kalevala, participe à cette construction d'un patrimoine commun. Le livre ne suggère pas pour autant que le pouvoir russe aurait simplement créé la nation finlandaise. l'autonomie demeure précaire et dépendante de l'Empire, tandis que les politiques de russification rappellent les limites de cette latitude. La force de l'analyse réside précisément dans cette articulation. L'identité nationale n'est moins d'une liberté complète que de l'usage politique et culturel d'espaces d'autonomie. Limitée. La revendication d'indépendance se prépare ainsi au sein même d'un ordre impérial dont elle finit par contester la légitimité. Quatrièmement, l'indépendance de 1917 et la guerre civile fondaient l'État sans effacer les fractures sociales, l'indépendance finlandaise. Proclamée en 1917 dans le contexte de l'effondrement de l'Empire russe, ne clôt pas automatiquement le processus de formation nationale. Le Kalok inclut la guerre civile de 1918 parmi les épisodes décisifs pour comprendre le nouvel État. Ce conflit montre qu'une nation récemment indépendante n'est pas nécessairement une communauté politiquement homogène, les oppositions sociales et idéologiques. Renforcées par les bouleversements révolutionnaires en Russie, prennent une forme armée. La guerre laisse donc une mémoire douloureuse et pose un problème concret de consolidation institutionnelle. L'intérêt d'une histoire synthétique est ici de replacer cet épisode dans une séquence plus longue. L'indépendance résulte d'un mouvement national ancien. Mais sa viabilité dépend ensuite de la capacité du pays à construire des institutions communes et à stabiliser ses divisions internes. Cette perspective évite deux simplifications représentées de l'indépendance comme un succès sans coup, ou réduire la Finlande à ses affrontements de 1918. Le livre conduit plutôt à voir la naissance de l'État comme un processus souveraineté juridique. Définition des loyautés politiques et intégration sociale doivent progresser ensemble. La guerre civile révèle aussi combien la Finlande demeure exposée aux crises de son voisinage. Son destin ne se comprend pas seulement par ses dynamiques nationales. Il est étroitement lié aux transformations violentes de l'Europe du Nord-Est au début du XXe siècle. En dernier lieu, entre Union soviétique et Europe, la prudence géopolitique comme condition d'autonomie. La seconde moitié du XXe siècle impose à la Finlande une contrainte fondamentale préserver son indépendance démocratique tout en vivant à proximité immédiate de l'Union soviétique. Le Kalok traite cette situation non comme un simple arrière-plan diplomatique, mais comme un facteur structurant de la politique finlandaise. Les guerres et les relations difficiles avec l'URSS rappellent que l'autonomie nationale reste vulnérable pour un État de taille limitée face à une grande puissance voisine. La prudence extérieure ne signifie toutefois pas une disparition de la souveraineté. Elle correspond à une stratégie d'adaptation visant à éviter l'isolement, à protéger les institutions nationales et à ménager des possibilités d'action dans un environnement contraint. Cette lecture permet de comprendre pourquoi les choix internationaux finlandais ne se laissent pas facilement classer sous les seules étiquettes de neutralité ou d'alignement. Ils répondent à un équilibre entre sécurité, autonomie politique et appartenance culturelle à l'Europe occidentale. L'adhésion à l'Union européenne en 1995 apparaît alors comme l'aboutissement d'un long mouvement d'ancrage européen plutôt que comme une rupture sans antécédent. Elle marque l'entrée pleine et entière du pays dans un cadre de coopération continentale après la fin de la guerre froide. L'ouvrage relie donc l'histoire diplomatique aux thèmes centraux du livre. Une identité nationale durable se construit aussi par la capacité à négocier avec des contraintes géopolitiques persistantes. En conclusion, Histoire de la Finlande s'adresse en priorité aux lecteurs francophones qui cherchent une première vue d'ensemble solide sur un pays souvent réduit à des clichés nordiques ou à sa seule proximité avec la Russie. Il sera utile aux étudiants, aux voyageurs désireux de situer les réalités culturelles et politiques finlandaises, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par l'histoire des minorités linguistiques, des empires et des constructions nationales. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une grille de lecture cohérente. La Finlande ne s'explique ni par une continuité nationale évidente, ni par une imitation de ses voisins, mais par l'articulation complexe entre langue, institutions, domination étrangère et contraintes de sécurité. Le livre se distingue des histoires générales de l'Europe du Nord par l'attention que Bernard Le Kalok porte au monde finno-ougrien et à la place concrète du finnois dans la formation nationale. Cette compétence permet de ne pas confondre proximité géographique et parenté culturelle. Sa forme synthétique couvrant les premiers peuplements, les siècles suédois, le grand-duché russe, l'indépendance et l'intégration européenne, en fait un ouvrage de cadrage plutôt qu'une monographie spécialisée. Cette concision implique qu'il ne remplace pas des études approfondies sur la guerre civile, les guerres contre l'URSS ou la politique contemporaine. Mais elle constitue précisément son atout. Le lecteur obtient des repères chronologiques et interprétatifs, qui rendent ensuite ces sujets plus intelligibles. Pour comprendre pourquoi la Finlande est à la fois nordique, finno-ougrienne, européenne et durablement attentive à son voisin russe, cette synthèse offre une entrée particulièrement pertinente. Si vous souhaitez soutenir Bernard Le Kalok, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.